Pascal et dans quelques instants, Anne-Marie Rouail, avec qui nous allons nous entendre peut-être comme chien et chat.
Vous aimez les chiens, vous aimez les chats, vous aimez l'art aussi. Alors venez découvrir ce week-end à Saint-Maurice-de-Bénaud ce qu'on peut faire de beau avec un chien ou avec un chat sans leur faire de mal, ça va de soi. Le 28e championnat de France de toilettage et d'esthétique canine et féline. Et c'est donc dans l'Ain, certes pour mettre à l'honneur le métier pas toujours facile de toiletteur, mais aussi pour essayer de rendre encore plus joli Médor et Félix, les Médor et les Félix. Toutes les compétitions sont ouvertes au public, intéressant pour mieux comprendre ce qui se passe quand la porte se ferme et qu'on laisse notre animal préféré seul avec le toiletteur. Et bien sûr, vous pourrez encourager votre préféré et peut-être même, qui sait, influencer le jury dans les 8 catégories proposées tout ce week-end. Le championnat de France de toilettage canine et féline, une organisation du syndicat national des professions du chien et du chat, que nous allons mieux découvrir aujourd'hui avec sa présidente dans l'Ain, Anne-Marie Leroy. Anne-Marie Leroy, bonjour.
Bonjour.
Anne-Marie Leroy, présidente de ce syndicat dans l'Ain depuis combien de temps ?
La présidence depuis plus de 15 ans.
Pourquoi avoir accepté ce poste il y a 15 ans ? Est-ce que vous vous souvenez de vos motivations à l'époque ?
Alors mes motivations ont commencé même il y a 30 ans quand j'ai débuté. Pour moi c'était une évidence d'appartenir à une famille, une organisation professionnelle syndicale patronale. Et puis petit à petit l'envie de s'investir, de faire découvrir notre métier et puis de l'expliquer, de montrer que ça peut être un métier d'être dans le chien et dans le chat. Quoi.
Et depuis 15 ans, pas envie de laisser la place ?
Non. Si, j'ai mes deux filles qui travaillent avec moi maintenant. J'ai laissé. Ah, mais au syndicat.
Oui, au syndicat.
Si, la relève se prépare, bien évidemment.
C'est un des essentiels. Anne-Marie Leroy qui vient aujourd'hui nous parler du syndicat national des professions du chien et du chat. Et puis également du championnat, hein, qui est un gros championnat qui se déroulera ce week-end. Ça va être un bel événement, ça, à Saint-Maurice-de-Bénaud alors.
À Saint-Maurice-de-Bénaud, oui, tout à fait. C'est la troisième année que nous l'organisons sur Saint-Maurice. On est à l'hôtel Lyon-Est. On y est bien. Ils nous ont accueillis et comprenant bien nos différences. Et il est vrai que voilà, pour la troisième année, on arrive sur une grosse compétition.
Et on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure avec vous. Anne-Marie Leroy sur FC Radio Essentiel.
L'Essentiel.
En Berrion, Bugey, 97.6.
Anne-Marie Leroy est la présidente dans l'Ain du syndicat national des professions du chien et du chat qui organise donc, ce sera ce week-end à Saint-Maurice-de-Bénaud, le championnat de France de toilettage canine et féline. On parlera de ces championnats tout à l'heure. Auparavant, on va revenir sur votre syndicat. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ce syndicat national des professions du chien et du chat ? Ça sert à quoi et à qui, alors, Anne-Marie Leroy ?
Alors, le syndicat est né en 1979, donc il n'est pas récent. Et au départ, il représentait les métiers uniquement de l'élevage de chiens et de chats. C'était tout nouveau. Hein. La profession commençait à se doter d'un premier diplôme qui, à l'époque, était un CAP. Et puis, bien évidemment, très vite, tous les métiers qui tournent autour sont nés, se sont développés. Et aujourd'hui, le SNPCC, donc le Syndicat National des Professions du Chien et du Chat, est ce qu'on appelle un syndicat représentatif des métiers. C'est-à-dire que nous siégeons dans les commissions mixtes paritaires, par exemple, face aux syndicats de salariés.
Mais il sert à qui exactement ?
Alors, il sert à toutes les petites entreprises artisanales ou agricoles hein, pour défendre un métier, pour mettre en avant une profession. On a eu un événement, par exemple, la semaine dernière important pour nous, qui était le congrès de l'UPA, l'Union Professionnelle Artisanale, durant laquelle nous avons accueilli notre président de la République. D'ailleurs, et notre ministre de l'Artisanat. C'est un congrès important parce que c'est l'occasion que tous les métiers de l'artisanat se regroupent et se retrouvent pour discuter de notre avenir et comment on voit l'avenir et notamment pour les prochaines élections présidentielles.
Mais alors, l'avenir, vous le voyez comment vous ?
Eh bien, l'avenir, on le voit très difficilement quand même dans les petites entreprises. On reste quand même très, très motivé, bien sûr, parce qu'on est. Quel que soit notre métier dans l'artisanat, c'est un métier de cœur de toute façon. On y a mis toutes nos tripes, toute notre âme, mais on a quand même du mal. On a quand même du mal à être entendu face à d'autres poids lourds, comme d'autres organisations professionnelles, patronales, qui ne sont pas les nôtres, qui ne nous représentent pas.
Est-ce que vous avez réussi à sensibiliser François Hollande, d'après vous ?
Mais écoutez, on espère en tout cas. En tout cas, on lui a dit clairement quelles étaient les 13 priorités de l'UPA pour le quinquennat qui arrivait. Et on attend bien que tous les candidats à la République pour les prochaines élections nous donnent leurs réponses.
On rappelle que votre syndicat, autrement, là vous parliez de l'UPA, mais autrement votre syndicat participe aux tables de travail de plusieurs ministères, hein, pas qu'un ministère d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Le ministère de l'Artisanat, l'Agriculture, bien évidemment, le ministère du Travail, avec la représentativité patronale actuellement. Hein. Donc on est dans toutes ces instances professionnelles.
Est-ce que c'est un syndicat qui est craint et écouté ? Écoutez déjà.
Oh, craint, j'espère pas, parce que c'est pas l'objectif, n'est pas d'être craint, hein, mais d'être surtout écouté, voire surtout entendu. Parce que écouter, on nous écoute toujours, mais ce qu'il faut surtout, c'est nous entendre.
Et bon, est-ce que d'après vous, votre syndicat a influencé quelques décisions qui se sont faites depuis quelques années ?
Ah oui, quelques-unes. On a
comme quoi,
notamment,
par exemple
si je prends le sujet de l'agriculture, on a la loi d'avenir agricole qui a abaissé le seuil de déclaration à la première portée pour faire face à la concurrence déloyale des particuliers qui produisaient et vendaient des chiots et chatons sans être déclarés.
Donc là, c'est pour l'élevage.
Ça, c'est pour la partie élevage. Et puis, dans l'artisanat aujourd'hui, on est beaucoup sur des décisions plus nationales au niveau, par exemple, de l'apprentissage, nos demandes de reconnaissance de métiers d'excellence dans l'artisanat. Comme étant, tout le monde le dit, hein, l'artisanat, vous êtes la première entreprise de France. Ok, c'est bien de le dire, mais il faut aller un petit peu plus loin que simplement le dire. On est aussi ceux qui forment le plus de jeunes. Et là, il faut nous entendre. Quand vous avez des chefs d'entreprise, de toutes petites entreprises qui vous disent que leurs apprentis gagnent plus qu'eux, il y a quelque chose qui n'est pas normal quelque part, quoi.
Mais là, c'est pareil pour les métiers du chien et du chat, même chose ?
Oui, c'est la même chose. Oui, bien sûr. Bien sûr, moi j'ai défendu dernièrement le dossier d'une toiletteuse, c'est pour ça que j'ai repris cette phrase, parce que ça m'avait beaucoup émue. Elle avait des problèmes financiers, donc on était là pour l'aider, hein, et moi j'étais là pour défendre son dossier. Et une des phrases qu'elle m'a dit, c'est ça, elle m'a dit: madame, moi j'ai formé pendant 3 ans quelqu'un pour lui donner son envol, et j'ai dit pourquoi vous arrêtez ? Elle me dit: mais parce qu'elle gagnait plus que moi. Et donc là c'est grave, parce qu'un apprenti qui a 18 ans, il va gagner 700-800 euros par mois. C'est grave quand quelqu'un qui est à son compte, qui travaille 2 fois 35 heures par semaine, vous dit ça, quoi.
Sur AFC Radio Essentiel, Anne-Marie Leroy, qui vient donc aujourd'hui nous sensibiliser au Syndicat National des Professions du Chien et du Chat, et puis nous parler de cette manifestation, hein, qui aura lieu ce week-end. Ce sera à Saint-Maurice-de-Bénaud, le championnat de France de toilettage d'esthétique canine et féline. Et Anne-Marie Leroy est avec nous aujourd'hui pour nous parler du Syndicat National des Professions du Chien et du Chat. Et puis tout à l'heure, on évoquera notamment ce rendez-vous qui aura lieu ce week-end à Saint-Maurice-de-Bénaud. C'est donc le championnat de France de toilettage et d'esthétique canine et féline. Et c'est la 28e édition qui aura lieu cette année. On revient au syndicat. Alors bon, bien sûr, vous faites la voix de ces entreprises artisanales qui concernent donc le chien, le chat. Les salariés, non. Hein. Les salariés, quand ils vous appellent, vous dites non, c'est pas
ah
nous,
non,
par
non,
contre.
Non, les salariés, ils ont leur syndicat, hein, je vais pas les citer, mais les salariés fonctionnent différemment. Les syndicats de salariés représentent toutes les professions, alors que les syndicats, les organisations professionnelles sont les syndicats patronaux, si j'ose dire. Les organisations professionnelles représentent certains métiers.
Mais par contre, les salariés pouvaient les renseigner s'ils veulent faire des formations.
Bien sûr, mais c'est pas théoriquement, ils doivent passer par leur employeur, et donc on va renseigner l'employeur de manière à ce qu'il guide correctement son salarié.
Parce que vous, les formations, c'est important. Vous aimez aussi quand même que les jeunes puissent se former au métier du chien et du chat. Vous la voulez, cette relève ?
Alors cette relève, oui, on la veut, c'est clair. On a mis en place avec l'Assemblée permanente de Chambre des métiers le premier titre à finalité professionnelle dans le toilettage canin et félin, le certificat technique des métiers, toiletteur canin et félin, qui est un diplôme, un titre à finalité de niveau 5, équivalent CAP. Et là, on vient de mettre en place un niveau 4, c'est la première fois, niveau bac, un brevet technique des métiers, toiletteur canin et félin.
Pour vous, c'est important que ça se fasse ?
C'était important. Et ce qui est important dans ce type de titre à finalité professionnelle, c'est que lorsque l'on travaille avec la PCMA, l'Assemblée permanente de Chambre des métiers, eh bien, c'est là vraiment la profession qui arrive avec sa page blanche et qui dit « voilà moi ce que je veux pour l'avenir de mon métier ». Mais ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que c'est nous qui détenons le contenu du référentiel de nos diplômes.
Et dans l'Ain, est-ce qu'il y a eu beaucoup de candidats ?
Alors dans l'Ain, nous n'avons pas d'école pour le moment qui peut former pour le CTM. Il faut aller en Auvergne, à Saint-Gervais d'Auvergne. Vous avez sur la Savoie également une école qui le fait. Enfin, on a 8 établissements en France au niveau national qui forment les jeunes à ce métier-là.
Est-ce que vous aimeriez qu'un jour dans l'Ain, ce soit possible?
Alors,
aussi, est-ce que vous essayez de faire des choses en ce moment?
Il y a une candidature en cours qui est celle, je fais leur pub, hein, du lycée agricole de Sibens. Ça fait déjà 2 fois, mais
donc c'est vers très vous, ça.
Il faut qu'ils aient l'accord de la région, et pour le moment la région ne suit pas. Donc j'espère que l'année prochaine, pour 2017, la région va suivre.
Et si ça se fait, ça sera une bonne chose justement pour promouvoir encore plus ces métiers du chien et du chat.
Oui, c'est important, parce qu'il faut quand même, aujourd'hui on peut s'installer, on n'est pas un métier qu'on appelle un métier réglementé. Vous prenez la coiffure ou l'esthétique, c'est un métier réglementé, il faut un diplôme pour pouvoir s'installer. Le toilettage, c'est pas le cas. N'importe qui, à la limite, suit n'importe quelle formation. On a aujourd'hui des formations, y compris par correspondance. Alors vous imaginez, hein, se former en toilettage par correspondance, ce que ça peut donner quand même. Et des gens qui s'installent, et nous on les appelle, on appelle ça des entreprises qui sont mort-nées, parce qu'au bout de 2 ans, il n'y a plus personne, quoi. Donc ils vont sur le marché du travail en créant leur entreprise, croyant bien faire. Et malheureusement, ils ne sont pas formés comme il le faudrait et du coup, ils ferment. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, quand on crée son entreprise, c'est quand même de durer. C'est ça, on a créé son emploi, mais il faut durer dans le temps. Et donc, quand on a des écoles qui forment les jeunes ou les moins jeunes, parce qu'on a un métier qui est beaucoup en reconversion également. Hein. On a un métier très féminin dans le toilettage. Il y a des hommes aussi. Hein. Quand on parle de parité, il y a quand même quelques hommes dans le toilettage. Mais c'est quand même un métier principalement féminin. Et c'est un métier où les femmes à 30, 35 ans, ma foi, reconversion professionnelle, partent dans le toilettage. Donc là, il ne faut pas se tromper de voie et pas se tromper d'établissement quand on veut être formé.
Donc ça, les formations, c'est un dossier primordial pour votre syndicat. Mais bon, là, vous parliez du toilettage. Or, les métiers du chien et du chat, ce n'est pas que le toilettage. D'ailleurs, on passera un petit peu en revue hein, les différents métiers tout à l'heure. Sinon, dans votre syndicat, est-ce qu'il y a la possibilité de trouver, par exemple, des offres d'emploi pour les entreprises qui recrutent ?
Alors oui, tout à fait. Ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place sur notre site internet. On met des offres d'emploi. Mais pour le moment, alors ça va paraître un petit peu étonnant compte tenu du nombre de chômeurs qu'il y a, mais j'ai quelques attentes en toilettage, notamment, et des personnes qui ne trouvent personne à embaucher.
Comment l'expliquer ?
Alors, souvent, manque de formation. Et puis peut-être manque de motivation, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir se déplacer aussi, certainement. Les personnes ne veulent peut-être pas aller sur des villes qui, comme Paris, par exemple, je pense à la région parisienne, ils veulent rester peut-être en province. Mais en tout cas, pour le moment, on a des demandes d'offres, des offres d'emploi, pardon, et on n'a pas de candidats en face.
Dans quelques instants, on parlera de quelques métiers, les métiers du chien et du chat. Ce sera avec Anne-Marie Leroy, qui est donc la présidente dont l'un du syndicat national des professions du chien et du chat.
L'essentiel.
FC Radio,
l'essentiel.
FC Radio.
En Berrieux-en-Bugey, 97.6.
FC Radio Essentiel aujourd'hui, Anne-Marie Leroy nous parle des métiers du chien et du chat, elle qui est donc la présidente dans l'Ain du syndicat national des professions du chien et du chat. On rappelle que dans l'Ain, il y aura ce week-end le 28e championnat de France de toilettage et d'esthétique canine et féline. Vous nous direz un petit peu comment ça va se passer. Il y aura du monde, il y aura des beaux animaux ce week-end. Mais là tout de suite, on va donc parler de ces métiers hein, qui concernent votre syndicat. Alors on parle beaucoup des toiletteurs depuis tout à l'heure. C'est vrai que le toilettage, c'est bien connu. Mais par contre, il faut faire attention à une chose, c'est pas parce qu'on aime les animaux domestique qu'on sera forcément un bon toiletteur ou une bonne toiletteuse.
Ah tout à fait, tout à fait. Il y a vraiment des techniques de travail particulières et il faut apprendre, que ce soit pour le toilettage ou les autres métiers, ce qu'on appelle les métiers de service aux animaux de compagnie. Hein. Mais c'est vrai qu'il est vrai qu'il y a des jeunes parfois qui viennent chez nous en disant « Moi j'adore les chiens, j'adore les chats, je veux faire votre métier ». S'il suffisait d'adorer les chiens et les chats, il y aurait du boulot pour tout le monde. Hein.
Et comment il se porte ce métier de toiletteur alors aujourd'hui ?
Ben, il se porte bien parce qu'on a quand même 5800 salons au niveau national. Beaucoup de micro-entreprises, qu'on appelait avant l'auto-entrepreneur, hein, des gens qui débutent, qui se lancent un petit peu avec ce procédé-là.
Pourtant, il faut du matériel quand même un peu.
Il faut quand même du matériel, oui, tout à fait. Mais ce qu'il faut aujourd'hui, c'est se différencier aussi. C'est-à-dire que ça va être un peu l'objectif aussi du championnat de France, c'est de montrer quand même que les chiens, le toiletteur, ce n'est pas juste une tondeuse sur un chien, quoi, parce que là, ou une paire de ciseaux. Ça nécessite quand même des compétences en technique de travail et des compétences en comportement animal aussi. C'est-à-dire qu'il faut arriver à comprendre qu'un chien ou un chat n'a pas forcément les mêmes envies que nous au même moment.
Dans l'Ain, par contre, il y a pas mal de salons.
Dans l'Ain, oui, on a 45 toiletteurs dans l'Ain.
C'est beaucoup quand même,
oui,
non ?
Oui, c'est beaucoup. Oui, on est pas mal au niveau national, on est bien.
Bon, 45 salons. Est-ce qu'il y en a certains qui ont quand même de grosses difficultés en ce moment ?
Des difficultés... Comment je pourrais dire ? J'ai presque envie de faire une réponse de oui et non, quoi. C'est-à-dire que tout va dépendre un petit peu des compétences du toiletteur aussi. J'ai des toiletteurs d'un côté qui me disent « Mais moi, mon carnet de rendez-vous, il est archi plein. » Et puis d'autres qui me disent « Oh là là, je peine. » Donc ceux qui peinent, moi j'aurais tendance à leur dire « Peut-être qu'on parlait de formation des jeunes tout à l'heure en formation initiale. Peut-être que ces gens-là, il faut aussi qu'ils aillent en formation continue et qu'ils aillent se remettre en question. » On a un peu tendance, on est encore un métier où on n'a pas ce réflexe d'aller se former régulièrement pour apprendre d'autres techniques de travail et puis savoir se mettre en avant aussi, se valoriser dans son travail. Il y a des gens qui ne savent pas faire ça. Ils ne savent pas dire qu'ils sont bons, quoi.
C'est comme les coiffeurs aussi, il faut toujours se former, c'est la même chose.
Oui, mais les coiffeurs vont bien, hein. Les esthéticiennes, les coiffeurs vont bien en formation. C'est dans leur gène, si j'ose dire.
Les toiletteurs, moins.
Les toiletteurs, moins. On retrouve un peu toujours les mêmes en formation. Il y en a qui vont se former, heureusement. Mais voilà, il faut vraiment accentuer un petit peu ces formations.
Autre métier, handler, c'est quoi ça ?
C'est tout nouveau. Alors ça fait
je ne connaissais pas, hein, personnellement.
Oui, alors le handler, c'est un terme anglais, bien sûr. On dit présentation au public, mais nous, on dit handler parce que c'est notre jargon professionnel. Ce sont des gens qui vont présenter votre chien dans une compétition de beauté, dans un concours de beauté. On avait, fut un temps, l'exposition de Bourg-en-Bresse, que l'on faisait tous les deux ans, à laquelle je participais aussi en termes d'organisation, avec la Société Canine Rhône-Alpes. Eh bien, vous avez des gens qui ont des très beaux chiens, des chiens de concours, comme on dit, mais qui n'ont pas du tout envie d'aller les présenter eux-mêmes et de les confier à un professionnel. Et c'est ce professionnel-là qui s'appelle un handler.
Mais c'est, bon, c'est, ça permet de vivre quand même un métier comme ça. Parce que
ah,
bon, des compétitions, il n'y en a quand même pas toutes les semaines.
Ah, si, si vous êtes un compétiteur, si, entre la France et l'étranger, si, si vous avez des compétitions toutes les semaines.
Donc là, il y a quelqu'un qui emmène le chien et il en fait son métier alors.
Mmh, il en fait son métier.
Et c'est quoi les qualités pour être un bon handler ?
Connaître les différentes races de chiens, c'est impératif. Avoir quand même des notions de toilettage, parce que quand vous emmenez en handling un chien qui nécessite une race, alors un labrador, c'est sûr que vous êtes tranquille, mais si vous emmenez une race qui a du toilettage, il faut quand même avoir des compétences en toilettage. Et puis, j'insiste sur une chose, quand on fait appel à un handler, il faut que ce handler ait suivi une formation transport animaux vivants, qui est une obligation légale pour les chiens et les chats, et qu'il ait ses assurances professionnelles. J'insiste là-dessus, parce qu'il y a des gens qui confient leurs animaux en handler, en pension aussi, à des gens qui ne sont pas déclarés, comme on dirait. Et après, eh bien, il ne faut pas se plaindre quand il y a un souci.
Est-ce qu'il y a des handlers dans le département de l'Ain ?
Non, pas encore. Il y en a qui ont une activité de handling, plutôt une activité connexe. C'est-à-dire des gens qui vont faire soit du toilettage, par exemple, et qui vont développer une activité de handling à côté.
Sur Absa Radio Essentiel, dans quelques instants, nous continuerons à découvrir d'autres métiers qui concernent les chiens et les chats avec Anne-Marie Leroy, qui est donc la présidente d'Onlin du syndicat national des professions du chien et du chat. N'oubliez pas ce week-end à Saint-Maurice-de-Bénaud, le 28e championnat de France de toilettage et d'esthétique canine et féline. Anne-Marie Leroy est avec nous aujourd'hui pour nous parler des métiers du chien et du chat et tout à l'heure de ce championnat qui aura lieu donc à Saint-Maurice-de-Bénaud ce week-end, le 28e championnat de France de toilettage et d'esthétique canine et féline. Tout à l'heure, on a vu le métier de toiletteur qu'on connaissait déjà, le métier d'handler qu'on ne connaissait pas mais qu'on a découvert avec vous. Et maintenant, on va parler d'un autre métier, éducateur canin, éducateur comportementaliste.
Alors oui, l'éducateur canin est un métier qui a connu son premier diplôme depuis 2003. C'est assez récent. C'est nous qui l'avons obtenu également. C'est-à-dire que nous avions une reconnaissance, besoin d'une reconnaissance dans cette profession-là. Et la meilleure des reconnaissances, c'est comme tous les autres, il faut un diplôme. Donc on a obtenu un brevet professionnel d'éducation canine. Et pourquoi on a rajouté éducateur comportementaliste ? Parce qu'aujourd'hui, on voit pas mal de techniques d'éducation qui ne conviennent pas à la profession. L'animal est un être vivant que l'on se doit de respecter et on doit travailler, on doit s'attacher en tant que propriétaire d'un chien à aller voir un éducateur qui travaille avec ce qu'on appelle des méthodes positives.
Mais ça se passe comment exactement ? C'est quoi exactement ce métier ?
Alors ce métier, c'est vous apprendre à être en... Comment dire ? C'est vous apprendre à être en cohérence avec votre animal dans votre vie familiale. Le chien ou le chat, alors on va parler d'éducation, c'est que pour le chien, hein, d'accord ? Le chien rentre dans votre cellule familiale. D'accord ? C'est pas son milieu de vie naturel. C'est bien nous qui l'intégrons dans notre foyer. Et il y a des maîtres qui ont des soucis d'éducation. Alors l'éducation, ça peut être tout bêtement marcher en laisse, revenir quand on l'appelle, enfin des choses très très simples. Et puis parfois des choses un petit peu plus compliquées quand il y a des situations familiales un peu plus complexes avec des personnes en handicap ou autres dans la maison. D'accord ? Donc cet animal, il va falloir lui apprendre à vivre avec nous. Et c'est là où intervient l'éducateur canin. C'est-à-dire que l'éducateur canin, il ne va pas juste vous apprendre à tenir un chien en laisse, parce que ça, il n'y a quand même pas besoin d'avoir, de faire énormément de séances pour ça, mais surtout vous apprendre à respecter votre animal et à le comprendre et à le lire. Le lire, c'est dire, ce que je dis souvent aux clients, moi, c'est le chien, il ne parlera jamais l'humain, donc à vous d'apprendre à parler le chien. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'un animal, quand on parle de morsure, par exemple, on a vu la catastrophique loi sur les chiens catégorisés qui a montré du doigt des races particulières et où d'ailleurs une étude très récente vient de démontrer que ce n'est pas ceux-là qui mordent le plus, mais souvent des animaux qui sont dans la cellule familiale. Pourquoi ? Parce qu'on ne respecte pas l'animal, que quand l'animal dit non, eh bien, il faut savoir s'arrêter, tout simplement. Et il y a des signaux, il envoie des signaux pour ça, donc...
Mais c'est un métier à temps complet ou alors
ah oui,
c'est un métier complémentaire avec un autre ?
Alors là aussi, on a des personnes, et notamment dans le milieu de l'élevage, qui font de l'éducation canine. Mais là, l'éducation canine aujourd'hui a pris son envol. C'est-à-dire que c'est un vrai métier à part entière. Oui, tout à fait.
Il y a quand même beaucoup de particuliers qui font appel à un éducateur comportementaliste aujourd'hui. Et est-ce que c'est cher ?
Alors, est-ce que c'est cher ? Le prix, c'est toujours trop cher de toute façon pour les gens. Mais quand il y a quelqu'un qui est compétent, il vaut mieux payer un peu plus un certain prix et avoir une personne compétente que d'aller payer pas cher quelque chose qui vous apportera rien, quoi.
Et il y a beaucoup de personnes qui font appel à un éducateur canin aujourd'hui.
Un éducateur canin, oui. Et puis, mais surtout, ce qu'il faut leur dire, c'est d'aller voir un professionnel.
Est-ce qu'il existe aussi des éducateurs félins ou est-ce qu'il est possible de faire avec le chien? C'est pas possible de le faire avec le chat.
Non, on peut faire des choses, mais ça n'a rien à voir. Le chien est une espèce sociale, hein, le chat ne l'est pas. Donc c'est complètement différent. C'est une approche complètement différente.
Dresseur.
Alors dresseur, là, ça va cibler des personnes, je prends en période de chasse, c'est l'occasion, les dresseurs de chiens de chasse. Donc là, c'est, on parlait tout à l'heure des handlers avec des gens qui vous confient un animal pour aller en concours de beauté. Là, ça va être des gens qui vont avoir besoin que leur chien de chasse soit dressé et prêt pour la chasse.
Et ça, c'est un métier.
De la compétition. Et là, c'est un métier.
Et c'est un métier qui est bien représenté dans le département de l'Ain ?
Dans le département de l'Ain, oui, on a une dizaine de dresseurs, hein. Ce qui est assez important quand même en dressage chasse.
Et là aussi, il y a des formations spécifiques ?
Non, ils sont tous issus des mêmes formations. Là, c'est souvent la formation élevage qui a ensuite conduit à la formation dresseur.
Sur Absurde Essentiel, Anne-Marie Leroy, et qui dans quelques instants nous parlera encore d'autres métiers du chien et du chat. On rappelle que ce week-end, il y aura donc le championnat de France de toilettage et d'esthétique canine et féline. Le 28e championnat de France de toilettage et d'esthétique canine et féline aura lieu les 5 et 6 novembre à l'hôtel Lyon-Est de Saint-Maurice-de-Bénaud. Organisée dans le cadre de la mise en valeur et la promotion des métiers du chien et du chat, cette compétition est ouverte aux toiletteurs et éleveurs professionnels dans 8 catégories, spaniel ou chat, autre poil ou toilette de salon, épilation, caniche, caniche expo ou caniche commerciale. Vous retrouverez également de nombreux stands prêts à vous accueillir et à vous faire découvrir les derniers nés de leur gamme de produits, shampoings, tondeuses et autres accessoires destinés à leurs animaux. Le 28e championnat de France de toilettage et d'esthétique canine, les 5 et 6 novembre, à l'hôtel Lyon-Est de Saint-Maurice-de-Bénaud. Sur Absurde Essentiel, Anne-Marie Leroy pour nous parler aujourd'hui des chiens et des chats. Anne-Marie Leroy qui est donc la présidente dans l'un du syndicat national des professions du chien et du chat. On va continuer à parler de certains métiers avec notamment le métier de pensionneur parce que ça aussi... C'est un vrai métier, pensionneur.
Ah oui, c'est un vrai métier parce qu'à l'époque où on voit fleurir sur la toile internet les pet-sitters qui gardent vos chiens et vos chats sans être déclarés, il faut quand même avoir...
Pet-sitter, c'est un petit peu comme babysitter, mais c'est pour les animaux.
C'est pour les animaux, oui, tout à fait, excusez-moi. C'est exact. Et là, effectivement, des gens confient leurs animaux à des gens qui ne sont absolument pas les professionnels. Donc, c'est du non déclaré encore. C'est la fameuse économie collaboratrice. Hein, alors qu'il y a des gens dont c'est le métier, la pension pour les chiens et pour les chats.
Et pensionneur, pour devenir pensionneur, qu'est-ce qu'il faut faire alors ?
Alors là aussi, c'est le bac professionnel élevage qui s'est transformé il y a 2 ans en bac professionnel entreprise, d'une entreprise canine et féline pour inclure justement la notion de pension dans la formation. Et là, il faut avoir des compétences bien évidemment diverses et notamment, on parlait tout à l'heure de comportement, à nouveau en comportement quand même, parce qu'on vous confie aussi bien un York qu'un dog allemand ou un setter anglais, quoi, comme on en parlait tout à l'heure.
Il faut avoir de la place, je présume que quelqu'un qui est en appartement sans balcon ne peut pas devenir pensionneur.
Ah, il y a des gens qui vous gardent les fameux pet-sitters dont on parlait tout à l'heure, ils gardent les chiens, alors ils vous présentent ça comme quelque chose de super, c'est dans la maison. Donc on vous dit, ouais, c'est super, le chien il sera pas dans un box, il sera pas avec d'autres chiens ou quoi que ce soit. Sauf qu'on a régulièrement, à chaque saison de pension, des personnes qui nous appellent en disant que le chat s'est évadé de chez le pet-sitter, ou alors que dernièrement, là je viens d'avoir un dossier d'un chien qui s'est fait tuer. Par un autre chien chez un pet-sitter, justement, et quelqu'un qui n'était pas déclaré, pas assuré. Donc maintenant, ils se retournent vers nous, ils nous disent qu'est-ce qu'on peut faire pour nous. Je dis, il va falloir un professionnel.
Mais le pensionneur, est-ce qu'il a le droit, lui, le professionnel déclaré, d'accueillir un chien dans un appartement sur balcon, par exemple ?
Non. Ah non, 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 absolument pas. Il y a des normes obligatoires. C'est-à-dire que toute notre profession est réglementée en termes d'obligations des services vétérinaires. C'est évident qu'on ne devient pas pensionneur comme ça du jour au lendemain. On a des obligations de surface, on a des obligations liées à différents registres qu'on doit tenir, des obligations de contrat. Enfin bon, c'est très, très encadré par les services vétérinaires.
Est-ce qu'il y a beaucoup de pensionneurs dans le département de l'Ain ?
Dans l'Ain, oui, on en a beaucoup. Me demandez pas le nombre parce que là, je reconnais que je ne le connais pas par cœur.
L'élevage de chiens et de chats, ça aussi, c'est un métier.
Alors là aussi, c'est un métier, c'est un vrai métier. C'est peut-être le métier le plus différent qui puisse être, parce que selon que vous élevez du York ou que vous élevez du dog allemand, vous n'avez pas élevé de la même façon, ce ne sont pas du tout les mêmes types de chiens. Et puis selon que vous élevez du chat, encore plus, quoi. Donc... Et puis en plus, là, on a des structures qui peuvent être complètement différentes. On a des petites structures, jusqu'à 9 animaux, par exemple. Et puis, donc là, on est sur des personnes qui ne sont pas en activité, ce qu'on appelle en activité principale. Ils sont en activité secondaire. Souvent, ils ont un autre métier à côté, qui peut être d'ailleurs un métier de toilettage ou de pension, hein, ou autre. Et puis, vous avez les gens qui sont en activité principale. Et donc là, l'élevage, c'est leur métier. Mais tous ces métiers, là encore, parfaitement encadrés par les services vétérinaires.
Donc c'est un métier
contraintes.
C'est un métier que vous connaissez bien, vous, éleveur de chiens.
Ah
c'est
oui,
quoi ces contraintes?
Moi, c'est du 7 sur 7. La première contrainte,
7
c'est
sur 7, c'est que c'est tous les jours.
C'est 7 sur 7, 24 sur 24. C'est-à-dire qu'on a un dictionnaire où certaines pages ont été arrachées, comme vacances, week-end, RTT. Vous voyez, ça n'existe pas chez nous. Donc, quand on veut partir dans ces métiers-là, c'est un métier, ça ne peut être qu'un métier passion parce qu'on n'arrête pas. Les animaux, ils ont besoin de nous tout le temps. Ce n'est pas plus compliqué que ça, en fait.
Et le métier en lui-même, il consiste en quoi alors exactement ?
Eh bien, d'abord à s'occuper des animaux, c'est-à-dire à entretenir leur habitat, leur lieu d'habitation, à les sortir. Il ne faut pas que les chiens restent enfermés dans des box toute une journée, ça c'est clair, c'est comme la pension, c'est le même raisonnement. À apporter certains soins, alors sous réserve, bien sûr, les soins, on n'est pas d'une profession vétérinaire, on est bien d'accord, donc ça doit être, faire très attention à ce qu'on fait et surtout à ce qu'on dit aussi, bien entendu. Et puis, l'objectif, c'est de faire naître des chiots ou des chatons pour procéder à leur vente dans le cadre d'une vente légale de plus de 8 semaines.
Et comment faites-vous pour qu'ensuite, donc, des chatons ou des petits chiots naissent ? Comment ça se passe ?
Eh bien, ça se passe souvent la nuit, souvent les jours fériés aussi d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, ou les dimanches, vous voyez, ils choisissent ces moments où, de calme un peu plus. Donc les animaux sont dans des maternités, ça fait souvent sourire, les gens disent une maternité, oui, il y a un cadre, la chienne doit être au calme bien évidemment, et les chiots là sont élevés, et on va travailler tout ce qu'on appelle la familiarisation. La socialisation, c'est le contact du chiot avec sa mère et avec les autres chiens. La familiarisation, ça va être le contact du chiot avec notamment la première espèce qu'il va rencontrer, c'est-à-dire nous les humains.
Mais par exemple, quand un chiot ou un chat naît, est-ce que vous êtes devant ? Est-ce que vous assistez à chaque naissance ?
Ah oui, on est en permanence avec eux. Oui, tout à fait. Ça surprend toujours les gens. Ils nous disent parfois, mais je croyais qu'une chienne, elle mettait bas toute seule. Oui, elle peut, mais c'est mieux quand on est là quand même. Donc maintenant, avec les caméras, on peut repérer les moments où la chienne commence à travailler, comme l'on dit chez nous aussi. Et puis ensuite, on va bien sûr avec la chienne, on ouvre les poches. On a même, moi j'ai une maternité dans laquelle j'ai une couveuse pour y mettre les chiots, pour les tenir au chaud le temps du restant de la mise bas.
Donc éleveur de chiens et de chats. Aussi, ça fait partie donc du syndicat national des professions du chien et du chat. Et ensuite, quand le chat grandit, et ensuite il peut être encore plus joli avec le toilettage. On parlera du championnat dans quelques instants. Championnat qui aura lieu ce week-end à Saint-Maurice-de-Bénaud.
L'essentiel.
Sœur d'essentiel avec Anne-Marie Leroy. Nous avons parlé aujourd'hui du syndicat national des professions du chien et du chat. On a évoqué plusieurs métiers il y a quelques instants. Par contre, le métier de vétérinaire n'en fait pas partie.
Non. Le métier vétérinaire est une toute autre profession. Ils ont leur propre syndicat également.
On va parler maintenant donc de ce championnat. C'est le 28e du nom. 28e championnat de France de toilettage et d'esthétique canine et féline. Et donc, dont l'un, ce n'est pas la première fois qu'il est organisé.
Non, ce n'est pas la première fois. Nous avons fait quelques tentatives sur la commune d'Ambérieu-en-Bugey. Et là, depuis 3 ans, nous sommes à Saint-Maurice-de-Bénaud. Nous sommes à l'hôtel Lyon-Est. Ça nous permet d'arriver tranquillement le vendredi et repartir aussi tranquillement le lundi matin.
Pourquoi ? Parce qu'à Ambérieu-en-Bugey, ça n'avait pas été très concluant ?
C'était surtout que la salle, on était à la salle des fêtes d'Ambérieu, ça oblige des déplacements.
L'espace 1500 peut-être ?
L'espace 1500, oui, tout à fait. Donc ça oblige à des déplacements. La salle est très belle en elle-même, mais on est obligé de prendre les véhicules avec les animaux. Alors que là, l'intérêt de l'hôtel, c'est qu'on est sur place. Et puis on a un directeur d'hôtel qui a compris la problématique de nos chiens et chats et qui nous accepte bras ouverts. Donc ma foi, autant rester avec eux.
Oui, parce que peut-être que trouver une salle pour accueillir tant de chiens et tant de chats, ça ne doit pas être accepté par tout le monde.
Non, c'est pas... Alors trouver la salle, si, ça c'est bien, mais après il faut trouver aussi l'hôtel qui nous accueille. Ça nécessitait quand même une organisation un petit peu particulière. Alors que là, l'hôtel, on a nos repas sur place, on a l'hébergement sur place, on a la compétition sur place. Voilà, on est. Et puis le lundi, on fait même des formations. On parlait de formation tout à l'heure, vous voyez, on fait même des formations le lundi pour en profiter.
C'est quoi exactement ce championnat alors ?
Alors, le championnat de France de toilettage existe donc depuis maintenant 28 ans. C'est le 28e que nous faisons cette année. Et c'est la mise en valeur d'une profession. Alors, on a des compétiteurs, des gens qui vraiment vont faire le championnat de France, mais vont également faire les ciseaux d'or en février dans le sud de la France. Et puis, vont partir à l'étranger dans d'autres compétitions de toilettage. Et puis, moi, j'avais remarqué il y a 5 ou 6 ans que certains venaient pour la première fois à la compétition et ne revenaient pas. Et je m'étais un petit peu étonnée de ça. J'ai dit, c'est un petit peu étonnant. Moi, je suis moi-même une compétitrice. J'ai dit, quand même, quand on vient faire une compétition, l'objectif, c'est de revenir, quoi. On jauge une première fois un petit peu le niveau. Et là, effectivement, c'est vrai que certains compétiteurs ont un niveau quand même aujourd'hui international. Donc, je peux comprendre le toiletteur qui se dit, bah tiens, pour la première fois, je vais aller tenter. Quand il voit le niveau des autres concurrents dans la classe pro, c'est la classe professionnelle, il peut se dire, oula, c'est pas pour moi, je m'en vais. Ce qui est bien dommage, parce que l'objectif, il n'est pas là. Et donc, on a créé une catégorie intermédiaire qui s'appelle la catégorie Espoir Pro, qui est donc réservée à des professionnels, des artisans ou des salariés, bien sûr, qui sont installés et qui viennent un petit peu faire leur début dans cette compétition et l'année d'après, on les retrouve en pro, hein, par contre.
Oui, parce qu'il y a donc plusieurs catégories, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Mais oui. Si j'ai bien compris, donc, cette compétition, ce championnat, c'est avant tout pour mettre en avant
le toiletteur.
Et pas tellement la personne qui vient un petit peu tester son chien ou son chat.
Rien à voir. C'est pas
un concours de beauté de chien et de chat, celui-là.
Ah oui, pardon, non, ça n'a absolument rien à voir. Non, c'est vraiment le travail du toiletteur qui va être jugé. C'est-à-dire que certains toiletteurs vont venir avec des animaux qui sont de race, mais d'autres non. Donc c'est pas une obligation. Et aujourd'hui, dans les salons de toilettage, la majorité des chiens ne sont pas de race, hein, de toute façon. Hein. Donc il faut bien faire de. Vous parliez tout à l'heure de Médor, il faut bien faire de Médor le champion du cœur de ses maîtres. Hein. Donc c'est le toiletteur qui va avec ses doigts faire ce travail-là, hein, qui va le transformer un petit peu, le modeler en fonction de sa morphologie. Donc non, c'est bien le travail du toiletteur qui est jugé.
Mais est-ce que le toiletteur vient avec le chien qu'il a sélectionné ou alors. Un toiletteur qui arrive aura un chien qui lui sera dédié.
Non, il vient avec le chien qui lui a été sélectionné parce que c'est déjà très compliqué d'avoir des clients qui acceptent de confier leur chien pour le toiletteur.
Chien ou chat, hein, parce qu'on rappelle que c'est canine et féline, hein, cette compétition.
Tout à fait.
Donc là, c'est vraiment un maître, un particulier, qui accorde l'ongle droit au toiletteur de venir participer à cette compétition.
Tout à fait.
Là, ce week-end.
Oui, tout à fait, c'est ça. Et alors, les toiletteurs ont parfois certains, ils ont un chien qui est le leur. Hein, on peut pas être toiletteur et pas avoir de chien soi-même, ça c'est pas entendable, une chose pareille, c'est pas possible dans nos métiers. Mais par contre, effectivement, on verra tout à l'heure quand on abordera les différentes catégories et les titres à gagner, ils peuvent avoir jusqu'à 4 animaux pendant le week-end à toiletter.
Est-ce qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de visiteurs qui participent à cette manifestation ?
Alors les visiteurs, on en a de plus en plus maintenant qu'on s'est définitivement installé à Saint-Maurice-de-Bénaud. Les gens savent qu'on est là, ils savent que c'est le premier week-end de novembre. On a des professionnels du toilettage qui viennent voir ce que c'est que la compétition et viennent voir nos stands également. Et puis bien sûr, on a des visiteurs qui viennent voir ce que sont capables de faire certains toiletteurs pour avoir eux-mêmes après peut-être des demandes vis-à-vis de leur propre toiletteur.
Le déroulement de cette manifestation dans quelques instants avec Anne-Marie Leroy, la présidente dans l'Ain du syndicat national des professions du chien et du chat.
L'essentiel.
FC Radio.
L'essentiel.
FC Radio.
En Berrieux, en Bugey, 97.6.
Samedi et dimanche à Saint-Maurice-de-Bénaud, c'est donc le 28e championnat de France de toilettage et d'esthétique canine et féline. Comment ça va se passer alors le samedi, le dimanche ? Alors, expliquez-nous un petit peu, Anne-Marie Leroy.
Alors, comment ça se passe ? Déjà, on a 3 possibilités d'engagement pour les toiletteurs, 3 classes. On a les pros, donc les artisans qui sont à leur compte ou leurs salariés, hein, d'ailleurs. On a les espoirs pros, dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, nous avons une 3e catégorie, les futurs pros. Et là, on va retrouver nos apprentis ou nos adultes en formation professionnelle. Et dans cette catégorie-là, nous avons créé il y a 2 ans le challenge des écoles. En plus. Donc là, on a déjà 3 classes. Et dans ces classes, chaque toiletteur va pouvoir participer à 8 catégories. 8 catégories. Le samedi matin, nous allons avoir le chat ou la catégorie spaniel. Le samedi après-midi, nous avons la catégorie toilette de salon ou autre poil. Le dimanche matin, la catégorie épilation. Et le dimanche après-midi, la catégorie caniche, dans laquelle nous aurons les caniches, bien évidemment, mais pour la catégorie pro, on va séparer les toilettes entre la toilette exposition, le caniche expo, et le caniche commercial.
Combien de toiletteurs vont participer à ce championnat ?
Alors, nous sommes en train de battre des records parce que juste avant de venir vous voir, je me suis renseignée à savoir où nous en étions dans nos inscriptions. Nous sommes à 75 candidats, ce qui est énorme, et nous allons dépasser les 150 toilettes.
Ce sont des toiletteurs qui viennent de toute la France ?
Ah, toute la France. Là, on en a qui arrivent de Bretagne, de Normandie, du sud de la France, de l'Ain, bien évidemment, de chez nous. Mais toute la France est représentée.
Et l'Ain, c'est une terre de champions ?
Ah oui, ben, vous avez, je crois, accueilli déjà Sandra Goyon, qui a été une de nos compétitrices, qu'on espère bien retrouver d'ailleurs sur les rings chez nous de temps en temps maintenant, hein, maintenant qu'elle a développé un deuxième salon. Mais oui, on a nos compétiteurs aussi ici. Hein.
Et donc, il y a des champions aussi. Peut-être qu'un nouveau champion, d'ailleurs, se révélera. Ce sera ce week-end, alors.
Alors, c'est même plus que ça, parce que ce week-end, nous allons attribuer pas moins de 27 titres. 24 titres de champion par catégorie. Donc, champion de France, par exemple, pro en épilation. Et puis, nous allons délivrer les 3 titres des meilleurs toiletteurs de France. Donc, dans les pros, espoir pro et futur pro. Et là, pour être meilleur toiletteur de France, il faut faire au moins 3 toilettes. Dont obligatoirement l'épilation et le caniche.
Pour un professionnel, est-ce que c'est vraiment porteur d'obtenir un titre dans ce championnat? Est-ce qu'ensuite, ça permet d'avoir une clientèle qui est encore plus importante qu'autrefois?
Alors oui, parce que il y a eu pas mal de débats dans l'artisanat sur les professions réglementées, la perte de cette réglementation qui finalement on a réussi à la garder pour les coiffeurs, les esthéticiennes entre autres. Et nous, on n'a rien. Et souvent, on nous dit, mais alors comment on peut reconnaître un bon toiletteur? Eh bien, un bon toiletteur, ça peut se reconnaître aussi grâce à ces compétitions-là. C'est-à-dire que le fait de gagner la formation, on en parlait tout à l'heure, c'est une chose. La formation continue, c'est encore autre chose. Et puis après, cerise sur le gâteau, eh bien la compétition. C'est-à-dire que quand un toiletteur arbore certains titres de champion, ou quand on a été meilleur toiletteur de France une année, eh bien, ça compte quand même dans un salon.
Côté coulisses, il y a quand même une bonne ambiance, ou alors vraiment, tout le monde veut la gagner.
Il y a une bonne ambiance, c'est une famille. Hein. Vous savez, l'artisanat, c'est une grande famille. Donc, bien sûr qu'il y a de la compétition, mais de la compétition saine. Chaque toiletteur vient pour gagner, c'est normal, sinon on ne viendrait pas. Mais après, il faut savoir applaudir celui qui a gagné cette année-là.
Les chiens et les chats, toujours parfaitement bien traités.
Ah oui, oui, ça, on y tient beaucoup. On est très vigilant à ces règles-là. On a eu un très bel exemple l'année dernière d'une toiletteuse. Je lui ai dit, ce prix-là n'existe pas, mais je lui ai dit, vous avez le prix de la présidence. Et en fait, elle avait un chien qui avait décidé qu'il ne voulait pas être toiletté et qui lui envoyait vraiment tous les signaux pour lui dire qu'il fallait qu'elle arrête. Et elle a su respecter ça du début à la fin. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été au bout de sa compétition pour respecter l'animal. Et croyez-moi, un championnat de France, c'est une fois par an. C'est beaucoup d'investissement pour les toiletteurs, investissement financier, investissement en temps. Ce sont des gens qui vont en formation continue, qui viennent se perfectionner pour pouvoir participer à toutes ces compétitions. Faire une impasse sur la compétition parce que ce jour-là, le chien a décidé que c'était non, c'est un très beau respect de l'animal, oui.
Il y aura un jury qui va juger bien sûr tous les toiletteurs. Est-ce que ce jury peut être influencé par les remarques des visiteurs qui seront présents et qui vont regarder un petit peu les coulisses?
Alors là, absolument pas. Nos jurys, il est intraitable. Nous avons 7 juges, dont bien évidemment un président de jury. Et chaque candidat est vu par 2 juges. C'est-à-dire que ça va être l'addition des 2 notes qui va faire que la note sera attribuée pour le toiletteur ou la toiletteuse. Et si jamais les 2 juges n'arrivent pas à se départager, c'est le président de jury qui va trancher.
Par contre, pour les visiteurs, ce qui est intéressant, c'est de découvrir les coulisses. Parce que souvent, quand on va chez un toiletteur, la porte se ferme et on ne voit pas toujours ce qui se passe.
Oui, tout à fait. Alors les coulisses, ils ne verront pas tout, parce que toute la partie lavage, préparation de l'animal, ils le font la nuit. Hein. Il faut quand même savoir que c'est une compétition difficile pour eux. Parce que, pour vous dire, à l'hôtel, on va mettre en place des plannings. Toutes les demi-heures, avec l'hôtel nous a mis à disposition un accès baignoire et pour laver et toiletter, enfin sécher les animaux pour les préparer, ça commence à minuit. Alors que la compétition va démarrer qu'à 9h. Donc je peux vous dire que toute la nuit, il va y avoir des va-et-vient.
Ce sera ce week-end à Saint-Maurice-de-Bénaud, des va-et-vient donc dans la nuit pour les animaux.
Pour les animaux.
Quoique bon, pour l'élevage, ça peut être pratique aussi. Je pense que ça se passe la nuit aussi, pareil.
Ça se passe aussi pareil.
Merci beaucoup Anne-Marie Leroy. Et je rappelle que vous êtes la présidente dans l'un du syndicat national des professions du chien et du chat. Ce week-end, l'entrée est gratuite ou payante pour le public?
L'entrée est gratuite pour le public. L'entrée est gratuite.
Et c'est donc à découvrir les horaires d'ouverture?
Alors on accueille à partir de 8h jusqu'à 17h le samedi, et le dimanche jusqu'à 19h, le temps de remettre toutes les coupes et les prix qui vont être attribués.
L'entrée est donc gratuite, on le rappelle. Merci beaucoup et à très bientôt.
Merci
c'est ce
vous.
Week-end et c'est à Saint-Maurice-et-Bénaud.
FC Radio. FC Radio. FC Radio.
L'essentiel.